Radio Kapi.
Oh, Kapi.
Présenté par Belinda Bosuma, voici le sommaire. Les parlementaires congolais reprennent le chemin du Palais du Peuple ce samedi. C'est après 3 mois de vacances parlementaires. Cette session consacrée au contrôle budgétaire notamment s'ouvre dans un contexte de guerre dans l'est du pays et aussi d'un dialogue direct gouvernement congolais M23. Air Congo a organisé hier son vol inaugural à Kindu, motif de satisfaction pour la population du Maniema qui parfois est confrontée aux difficultés de déplacement. L'appareil a une capacité d'accueil de 138 passagers en classe économique et 16 en business. Le vol est prévu chaque vendredi et dimanche de la semaine. Et puis, l'invité de ce matin, Jacques Joly, rapporteur de l'Assemblée nationale, il nous parle des enjeux de la session parlementaire de mars qui s'ouvre aujourd'hui à l'Assemblée nationale et au Sénat. Madame, Messieurs, bonjour. Ouverture ce samedi 15 mars de la session parlementaire ordinaire de mars, conformément à l'article 115 de la Constitution. Les députés et sénateurs reprennent aujourd'hui le chemin du Palais du Peuple après 3 mois de vacances parlementaires dans leurs 6 circonscriptions respectives. Cette session consacrée au contrôle budgétaire et à la légifération s'ouvre dans un contexte de guerre avec la chute de Goma et de Bukavu, mais aussi d'un dialogue direct entre le gouvernement congolais et l'AFC M23. Michel Kifindangoy.
La session ordinaire de mars qui s'ouvre ce samedi intervient dans un contexte très particulier. Le Parlement devra jouer un rôle important en cette période de crise où la RDC fait face à une menace existentielle, souligne le président du Sénat. Au cours de la réunion de son bureau vendredi, Jean-Michel Samalukonde estime que le Sénat entend travailler durant cette période sur les questions sécuritaires et la diplomatie parlementaire pour appuyer le président de la République dans sa quête de la paix. Même agenda au niveau de l'Assemblée nationale, où l'opposition parlementaire entend aussi exercer un contrôle strict. Christian Mwando.
Il s'agira également de procéder à un contrôle strict sur l'exécution de la loi de programmation budgétaire, dès lors qu'il s'agissait d'augmenter sensiblement son budget. Il s'agit également de voir ces dilapidations des fonds qui se font avec les gens qui sont éparpillés partout sur le terrain, faisant semblant de mobiliser ou de recruter à travers la nation à coups de millions de dollars dans des meetings inutiles.
Après la conférence des présidents vendredi dans la soirée, l'Assemblée nationale s'est dit aussi prête à relancer les activités parlementaires dès ce samedi en début d'après-midi.
À Kinshasa, pendant ce temps, la nouvelle société civile dit rester prudente par rapport au revirement du chef de l'État qui vient de franchir la ligne rouge en prenant acte de la tenue des négociations directes avec le M23. Par ailleurs, le coordonnateur national de la nouvelle société civile encourage la tenue de ces pourparlers entre le gouvernement et le M23. Pour Jonas Tiomela, seuls les Congolais doivent se retrouver à la table de ces négociations et non des étrangers. Jonas Tiomela, au micro de Askin Zebiat.
Ces discussions devraient avoir lieu dans un cadre beaucoup plus global. Un, on devra associer tout ce qui était pris en considération au niveau de Luanda, au niveau de Nairobi, pour que la solution soit globale. Deux, ceux qui seront en face du pouvoir de Kinshasa ne devraient être que des Congolais. Tous ceux qui ont des nationalités rwandaises n'ont qu'à aller dans leur pays pour aller discuter des problèmes qui se concernent le Rwanda. Donc ces discussions seront des discussions des Congolais, parce que certainement dans l'M23, il y a le Congolais qui ont pris les armes. Et ceux-là doivent parler avec leurs frères qui sont en face. Trois, il ne sera pas question dans ces discussions d'intégration et de mixage. Ces mouvements rebelles devront se transformer réellement en mouvements politiques pour conquérir légalement le pouvoir par des voies démocratiques.
Par ailleurs, dans le cadre des efforts soutenus de la Belgique pour contribuer à un retour durable à la paix dans l'est de la RDC, Marc Pickstein, envoyé spécial de la Belgique pour les Grands Lacs, a effectué du 12 au 13 mars en cours une visite de travail de 2 jours à Kinshasa. Au cours de sa visite, ce représentant de la Belgique a rencontré le chef de l'État, les députés nationaux du Nord et du Sud Kivu, les membres de la société civile ainsi que le comité international de la Croix-Rouge, porteur du message de la Belgique sur la situation dans l'Est congolais, Mark Pickstein a fait savoir que son pays est profondément préoccupé par la situation humanitaire dans les Kivu et appelle à un accès humanitaire sans entrave et à la protection des civils. Étienne Lissumbo nous en dit plus.
Mark Pickstein a d'abord été reçu par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, pour parler de la situation sécuritaire préoccupante dans la partie orientale de la RDC. Après son tête-à-tête avec le chef de l'État, l'envoyé spécial de la Belgique a eu un échange avec les députés du Nord Kivu et Sud Kivu afin de mieux appréhender sur les réalités locales et les défis auxquels les populations locales font face. La dimension humanitaire de la crise était au cœur d'une suite de discussions prévues avec le représentant du Comité international de la Croix-Rouge. Dans son entretien avec le membre de la société civile, Mark Pickstein a insisté sur la cohésion nationale et la préservation du pacte social pour la paix et le bien vivre ensemble en RDC et dans le Grand Lac. Après son séjour à Kinshasa, il s'est rendu à Luanda où il a pris langue avec les autorités angolaises sur la situation de la région de Grand Lac. Le représentant de la Belgique a donné la position de la Belgique sur la situation qui prévaut à l'est de la RDC qui appelle à un accès humanitaire sans entrave et à la protection des civils. Il soutient également la réouverture de l'aéroport de Goma, promouvoir les objectifs de réconciliation nationale, de tolérance et des renforcements de la démocratie et encourage les dialogues inclusifs.
Et face à l'aggravation de la crise dans l'est de la RDC, notamment dans les provinces du Nord et du Sud Kivu, y compris le risque d'un embrasement régional, le système des Nations Unies redouble d'efforts pour accompagner la RDC dans ses défis actuels. C'est ce qu'affirme Bruno Lemarquis, représentant résident du secrétaire général de l'ONU en RDC, dans une note d'information émanant de sa cellule de communication, alors que cette crise menace non seulement le développement, mais aussi la stabilité sociale des communautés touchées. Il évoque une révision stratégique, mettant l'accent sur des actions coordonnées pour atteindre les objectifs fixés dans le cadre de coopération 2025-2029. Le condensé de Ronéline Tibonera, rendu par Jude Mister Bilanda.
Pour ce nouveau cycle de coopération, l'ONU prépare les terrains pour la réussite des objectifs de développement durable en collaboration avec le gouvernement congolais. Malgré un environnement instable, les priorités sont clairement établies. Une croissance inclusive, créatrice d'emplois, les renforcements de la gouvernance et de l'état des droits, un accès élargi aux services sociaux des bases et une gestion durable des ressources naturelles pour prévenir les conflits, révèle cette note d'information de la cellule de communication de Bruno Lemarquis. Afin de garantir une action plus cohérente, le système des Nations Unies mise sur l'approche One UN qui favorise la synergie entre les agences onusiennes et la mise en œuvre des programmes conjoints ciblant à la fois les besoins des populations vulnérables et les défis environnementaux. Cette note précise également que pour favoriser l'atteinte de ces objectifs, au moins 8 équipes de coordination locale pour les interventions humanitaires ont été mise en place à travers la RDC depuis 2024. Cette initiative vise à transformer les défis actuels en opportunités et à accompagner la RDC vers un avenir stable et prospère.
Direction la province du Maniema, je vous l'ai dit dans les titres. La compagnie aérienne Air Congo a organisé hier son vol inaugural à Kindu, une grande satisfaction pour la population de ce coin qui parfois est confrontée aux difficultés de déplacement. Satisfait, l'autorité provinciale dit déjà croire au développement de sa province. Cet appareil ayant une capacité d'accueil de 138 passagers en classe économique et 16 en business va survoler le ciel de Kindu chaque vendredi et dimanche de la semaine. Florence Kizalunga, reportage.
Air Congo a atterri à l'aéroport national de Kindu sous les acclamations de la population. Descendue de l'avion après la visite des autorités provinciales, la directrice commerciale de cette compagnie donne ses garanties. Cécile Serrao.
Air Congo est arrivé aujourd'hui et Air Congo va rester à Maniema. Il va partir, il va revenir deux fois par semaine, chaque vendredi et chaque dimanche, en connexion avec Kisangani.
Rassuré du confort et de la sécurité, l'autorité provinciale loue l'initiative du président de la République, Moussa Kabwankubi.
Nous remercions d'abord son Excellence chef de l'État pour cette initiative de créer une compagnie aux couleurs nationales. Air Congo va contribuer au désenclavement de la province. Notez que Air Congo est le fruit des partenariats entre le gouvernement congolais et Ethiopian Airlines.
Selon la directrice commerciale, le billet se négocie à 205 $ Kinshasa Kindu pour les adultes, 170 $ pour les enfants et 50 $ pour le bébé de moins de 2 ans. Kindu, Florence Kizalunga, Radio Kapi.
Autre nouvelle, au Nord Kivu, l'administrateur du territoire de Lubero, le colonel Alain Kiwewa, appelle les parents à envoyer leurs enfants à l'école dès le lundi 17 mars prochain. C'est après plus de 3 semaines d'arrêt. Il justifie cet appel par la maîtrise de la situation sécuritaire à Lubero Centre et ses environs. Par cette même occasion, il invite particulièrement les enseignants de Lubero Centre également à rejoindre leurs établissements scolaires respectifs afin d'éviter une année blanche. Le colonel Alain Kiwewa l'a dit vendredi après avoir effectué une visite dans la plupart des écoles de Lubero Centre où il a pu observer un faible taux de fréquentation des élèves à cause de l'insécurité. Alain Kiwewa explique dans ses propos choisis par André Kitenge.
La situation sécuritaire est maîtrisée au niveau de Lubero Centre et ses environs. Donc, il était important que les enfants puissent reprendre le chemin de l'école. Et demander également à tous les enseignants d'être dans leur complexe scolaire et aux parents de libérer les enfants. Nous évitons à ce que nous puissions connaître une année blanche par la fermeture des écoles ou la non-participation des élèves à l'école. Et je suis en train de remercier certains complexe scolaire que moi-même je suis allé visiter, entre autres à Kimbulu, ici à Moussienene, les cours ont déjà repris, et au niveau de Mouhagne, dans les environs de Lubero, les cours avaient déjà repris. Ici au niveau de Lubero Centre, c'est là où je voudrais insister à ce que le parent puisse vraiment libérer les enfants et que la semaine que nous allons commencer, que tout le monde soit à l'école.
La population d'Isiro recommande la réorganisation des patrouilles des forces de sécurité dans cette ville. De ce fait, elle doit être sensibilisée et informée des dispositions prises par les autorités en rapport avec la situation sécuritaire pendant cette période. Ceci pour éviter des dérapages. C'est une des recommandations adressées jeudi aux autorités provinciales du Haut-Ouélé par la coordination de la coopérative des organisations pour la protection des droits humains, encadrement des exploitants artisanaux et développement communautaire. Au lendemain du meurtre d'un jeune élève par des patrouilleurs mercredi dernier, Jacques Moukonkole nous raconte.
La victime a été criblée de balles par un militaire en patrouille. Selon maître Pascal Kirongozi, coordonnateur de COPAD, ce jeune élève d'environ 19 ou 20 ans rentrait chez lui en compagnie de beaucoup d'autres personnes après le match de football ayant opposé cette nuit-là le Real de Madrid à l'Atlético. Ils ont rencontré des militaires qui les ont interpellés. Cependant, au lieu de s'arrêter, lui et certains de ses camarades ont préféré prendre la fuite. Un des militaires a tiré sur eux. Malheureusement, il a été atteint mortellement. Jeudi dernier, la population est descendue dans la rue pour manifester son ras-le-bol. La même source rapporte que les patrouilleurs ravissent argent, téléphone et autres biens à ceux qu'ils croisent dans les rues notamment. Ils déplorent la non-sensibilisation de la population par rapport à ces patrouilles nocturnes. Pendant ce temps, le tribunal militaire de garnison organise depuis jeudi dernier un procès en flagrance contre 2 militaires FRDC soupçonnés d'être les auteurs de ce meurtre. COPAD demande au tribunal militaire de rendre justice à la victimes et au gouvernement provincial de prendre en charge ses funérailles. Enfin, à la population, elle l'exhorte à garder le calme jusqu'à la fin du procès en cours. Jacques Moukonkole, Kisangani, Radio Okapi.
Le 15 mars, aujourd'hui, c'est la journée mondiale du sommeil. À cette occasion, Radio Kapi s'est penché sur l'impact du sommeil sur les enfants écoliers de la ville de Kinshasa. Gloria Lutula a fait le tour de certaines écoles de la capitale. Voici son reportage.
C'est un calvaire pour les jeunes écoliers de Kinshasa qui parcourent des très longues distances pour arriver à leurs écoles le matin. D'autres enfants sont obligés de se réveiller à 4 heures du matin avant d'affronter les embouteillages. Ils arrivent déjà fatigués, témoignage d'un parent.
C'est souvent vers ces heures-là que vraiment le sommeil devient doux et profond. Et les réveiller, surtout les plus petits, c'est pas facile.
Ceux qui habitent loin des écoles rentrent tardivement à la maison à cause des embouteillages. Normalement, les enfants doivent dormir pendant 8 heures Mais avec la télévision, les autres dorment tardivement.
Mais c'est au retour que tu vois vraiment que les enfants sont épuisés. Il y a certains qui s'endorment dans la voiture, donc les enfants sont vraiment épuisés.
Selon le psychologue, le repos de qualité est essentiel pour la lucidité, le bien-être émotionnel et la résilience générale et particulière dans les environnements très stressants.
Actualité internationale.
Les chefs de la diplomatie du G7 se sont réunis du 12 au 14 mars courant à Charlevoix au Canada pour célébrer le 50e anniversaire du groupe. Les discussions ont porté sur les crises mondiales majeures, en particulier la RDC, le Soudan et Haïti. Ces pays en proie à des violences extrêmes ont occupé une place centrale dans les débats.
L'invité.
Comme annoncé, nous recevons le professeur Jacques Joly. Il est rapporteur de l'Assemblée nationale. Il nous parle des enjeux de la session parlementaire de mars qui s'ouvre aujourd'hui à l'Assemblée nationale et au Sénat. Jacques Joly est avec Michel Kifindangoy.
Professeur Jacques Joly, bonjour.
Bonjour Michel Kifindangoy.
Les députés nationaux et les sénateurs reprennent le chemin du Palais du Peuple dès ce samedi. Quelles sont les priorités pour cette session de mars?
Cette session de mars s'ouvre dans un contexte particulier, celui de l'occupation de la partie orientale de notre pays par les troupes rwandaises et leurs supplétifs du M23. Il est donc important que la représentation nationale puisse intégrer cette question dans ses travaux. Et sur ces points, après la session extraordinaire qui a été convoquée par les chefs de l'État, qui nous a demandé de donner notre contribution sur la sortie de crise au plan politique et diplomatique, à ce sujet, il faut dire que la primaire, si pas l'exclusivité de ces recommandations lui ont été réservées. Maintenant, avec la chute de Goma et surtout de Bukavu et d'autres centres importants, nous allons avoir le rapport de la commission défense et sécurité ainsi que la commission des relations extérieures qui ont continué à travailler sur la question. Toujours dans cette perspective de gestion de la crise à l'Est, nous allons suivre aussi le rapport intersession de la commission économico-financière qui a analysé la question de l'allocation des ressources pour le renforcement de capacités des forces armées, notamment la question de primes et des soldes des militaires et de l'acquisition de matériel spécifique, mais aussi des orientations données par le chef de l'État à ce qui concerne la réduction du train de vie. Ça exige, n'est-ce pas, une requalification du budget en termes de collectif budgétaire pour s'adapter au contexte. Au-delà de cela, il y a les renforcements de contrôle pour lutter contre la délinquance financière et la perte de ressources consécutives à cette situation.
Justement, cette session, comme vous l'avez si bien dit, s'ouvre dans un contexte où une partie du pays est occupée avec deux grandes villes entre les mains du M23. Comment le Parlement envisage renforcer son action pour apporter des solutions aux problèmes de sécurité dans la partie Est? Vous allez procéder à des coupes budgétaires?
La question des coupes budgétaires a déjà reçu une orientation au niveau du chef de l'État, mais nous restons l'autorité budgétaire avec les gouvernements. Il sera question de voir comment on fait ces nouvelles orientations. Il est vrai que selon les services techniques, on parle d'une diminution de ressources qui varie entre 10% à 17%. Donc, sur le plan économique et budgétaire, cet aspect sera abordé. En toile de fond de toutes ces questions, il y a la volonté du peuple congolais qui exige de leurs représentants la restauration rapide de l'intégrité du territoire et les retours de villes de Goma et des villes de Bukavu, si pas de toute la partie orientale, dans l'unité, dans l'indivisibilité mythologique de notre pays. Cette nécessité, sera la toile de fond de notre session de cette année.
Un dialogue s'ouvre à Luanda entre le M23 et le gouvernement congolais. Pensez-vous que l'issue de ce dialogue peut avoir un impact direct sur les travaux du Parlement à partir de Kinshasa?
Il faut d'abord dire que la gestion des questions de la gestion de la guerre et de la diplomatie sont des questions qui sont de la compétence du président de la République, chef de l'État, et appuyées par le gouvernement, éventuellement aussi par les parlements.
Et vous pensez que cette intégrité serait retrouvée ou sera retrouvée par le dialogue ou par le renforcement de notre armée?
Peut-être pas le même concept, mais je crois que le chef de l'État l'a dit, que l'intégrité du territoire va être restaurée par voie diplomatique ou par voie militaire. Et c'est ce qui est important.
Professeur Jacques Joly, je vous remercie.
Et c'est moi qui vous remercie.
Le rapporteur de l'Assemblée nationale répondait aux questions de Michel Kifindangoy. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi.